BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, il est presque 7h. Bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Le week-end a été dévastateur en termes de feux de forêt. 220 000 évacués en Gironde, 42 000 hectares partis en fumée. Et tout le tissu économique de la région qui est bouleversé. Les autorités ont annoncé plusieurs dispositifs d'aide pour les entreprises locales. On va voir ça dans le détail dans un instant. Et puis, le champion chinois des puces mémoire CXMT a vu son titre flamber de 470% dès les premiers échanges lors de son IPO à Shanghai. Ce matin, CXMT qui a levé 8,6 milliards d'euros. La bataille de l'IA et des puces continue. On va en parler avec Étienne Brack. Les autres titres ce matin, Léo Dumas.
Les assurances habitation en première ligne face aux incendies en Gironde. Les décideurs sont de plus en plus pessimistes selon le baromètre Via Voice pour BFM Business. Et puis, journée décisive au tribunal pour Fibre Excellence.
Dans la prochaine heure, et si l'e-sport était l'avenir de l'événementiel, alors que la troisième édition de la Coupe du Monde des jeux vidéo se déroule à Paris jusqu'à la fin du mois d'août. Les lieux d'exposition se réinventent. On va en parler dans Parole de Patron avec Arnaud Zumaglia. Ce sera à 7h20. Et puis, il remonte doucement la pente et prévoit une fin d'année bien plus optimiste encore. Le franco-italien ST Microelectronics vogue entre la reprise de l'industrie auto, l'essor des data centers et des communications à orbite basse. Son PDG, Jean-Marc Chéry, sera sur ce plateau à 7h45 dans le Grand Entretien. La matinée de l'économie. C'est parti.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Good morning business. Le journal.
Et veuillez nous excuser pour cette panne technique d'écran, ça va revenir. On commence ce journal par cette cinquième nuit de guerre contre les flammes en Gironde, Léo Dumas.
42 000 hectares ont déjà brûlé, 260 000 personnes ont été évacuées. Les réunions de crise vont se multiplier aujourd'hui avec le gouvernement sur le plan national dans l'après-midi, avec les fédérations concernées, du tourisme à l'énergie en passant par les télécoms. Et puis avant ça, réunion dès 9h ce matin à Bercy avec les professionnels du Sud-Ouest pour tenter d'assurer la continuité de l'activité. Le point avec François-Xavier Roux.
Dans les communes touchées par l'incendie en Gironde, pas de retour au travail en ce début de semaine, selon les mots de la préfète du département, Sophie Broca. La Chambre de commerce et de l'industrie dénombrait ce dimanche plus de 15 000 entreprises concernées par les zones brûlées et les zones évacuées. Pour elle, l'État a mis en place toute une série de mesures d'accompagnement, à commencer par une cellule d'urgence accessible par téléphone au 3006. Mais les entreprises peuvent aussi recourir à l'activité partielle, le motif, toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Elles peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement fiscal et financier ou encore des mesures exceptionnelles de l'URSSAF en faveur des employeurs et des travailleurs indépendants. Autre point de vigilance, un certain nombre de sites sensibles de l'industrie de défense, de l'aéronautique et du spatial installés sur le territoire. Depuis le début du week-end, industriels et autorités devancent une arrivée éventuelle des flammes avec la création de parcs de Safran, Thales, Dassault, Roxel France ou encore Ariane Group. Les autorités se veulent rassurantes. Le ministère des Armées indique que des experts et des moyens ont été déployés pour la sécurité de ces sites. Et les industriels ont également évacué les stocks de matières les plus dangereuses et inflammables.
Et si les dégâts sont impossibles à chiffrer pour le moment, le bilan s'annonce tout de même colossal pour les particuliers. 240 habitations ont été brûlées et les personnes concernées doivent maintenant se tourner au plus vite vers leurs assureurs. Caroline Morisseau.
En cas d'incendie, pas de mobilisation de fonds publics comme en cas de catastrophe naturelle. Cela relève de l'assurance habitation de chaque particulier. Ils ont 5 jours maximum pour faire leur déclaration avec dans l'idéal des factures et photos à l'appui. Les conditions d'indemnisation dépendent ensuite de chaque contrat, garantie des biens, sur leur valeur neuve ou vétusté déduite, franchise et surtout plafond. Selon les experts, c'est souvent là que le bas blesse. Beaucoup d'assurés ont tendance à sous-évaluer leurs biens pour payer moins cher leur assurance. La plupart des contrats prévoient également des aides pour le relogement si la maison est inhabitable ou détruite, mais là encore les durées dépendent du contrat. En France, il est rare d'avoir des dégâts matériels aussi importants liés au feu. Les incendies ne représentent que 4% des sinistres annuels. En revanche, c'est le sinistre le plus coûteux pour les assureurs, 15 000 euros en moyenne, beaucoup plus évidemment lorsque la maison est détruite, d'autant que ce coût a nettement augmenté depuis 2021 avec la flambée des matières premières et donc des coûts de construction.
Les dirigeants d'entreprises ne croient plus beaucoup à un retour à la normale de l'économie française, Léo.
C'est le constat ce matin du nouveau baromètre des décideurs Via Voice pour HEC, L'Express et BFM Business. Ils sont trois quarts d'entre eux à estimer même que le niveau de vie des Français va se dégrader au cours de l'année à venir. Le pessimisme collectif gagne du terrain et il pousse les entreprises à revoir leurs priorités, Lynn Lefaou.
On est entré dans une ère d'installation des crises. C'est ce que constate Adrien Broche, directeur de l'étude. Avec la guerre au Moyen-Orient, les tensions inflationnistes et l'enchaînement des canicules, il n'est plus question de parler d'événements ponctuels, mais bien d'un environnement durable. La priorité des entreprises n'est donc plus de savoir comment y faire face, mais plutôt comment s'y préparer.
À la sortie du Covid, donc fin 2020-2021, on était entré dans une ère vraiment de la résilience. Ça, c'est toujours vrai, mais il se trouve qu'on a progressivement muté, glissé vers l'ère des ajustements, des adaptations. Parce qu'on voit que ces crises, elles se sont installées. Parce qu'on voit que ces nouveaux rapports au travail, à la réussite, à l'investissement, ils ont muté et qu'ils sont toujours présents.
Ces dernières années, plusieurs changements ont été observés en interne, comme la question du télétravail, le recrutement ou le rapport à la hiérarchie. Mais un autre sujet est devenu central, la question de l'énergie.
En réalité, elle s'est imposée dans le débat public quasiment depuis 2020. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où d'abord ça a pris la forme d'une question de énergétique, ensuite de pouvoir d'achat, et les deux se sont imbriqués directement. Et on voit quand même que très largement, la question énergétique est une source de préoccupation, comme la question du travail, dans à peu près tous les secteurs d'activité.
Un enjeu qui s'invite déjà dans la présidentielle de l'année prochaine. 88% des décideurs souhaitent que la question des prix de l'énergie occupe une place importante dans le débat, même si la moitié d'entre eux estiment qu'aucun présidentiable ne semble comprendre vraiment ces enjeux.
7h05, c'est une journée décisive pour Fibre Excellence. Le tribunal de commerce de Toulouse examine aujourd'hui l'offre de reprise de Mathieu Pigas, déposée début juillet pour éviter la liquidation judiciaire aux fabricants de pâtes à papier, mais pour sauver les 670 salariés. Le financier demande une aide de l'État. Trop importante au goût du gouvernement, Valentine Adby.
Au cœur du dossier, une question, qui doit prendre le risque financier? Le projet de Mathieu Pigas prévoit plus de 100 millions d'euros d'investissement pour redémarrer les usines, les moderniser et développer de nouvelles productions, notamment de la pâte fluff destinée aux couches et aux protections hygiéniques. Mais sa holding Combat n'apporterait directement que 5 millions d'euros au capital, complété par 3 millions venant d'autres investisseurs privés. Le banquier d'affaires demande encore environ 110 millions d'euros de soutien public supplémentaire. De son côté, l'État rappelle avoir déjà consacré près de 90 millions d'euros à Fibre Excellence depuis 2021. Bercy est prêt à mobiliser 100 millions supplémentaires à travers des prêts, des garanties, des effacements de dettes ou encore une hausse du tarif de rachat de l'électricité produit par l'usine allant jusqu'à 20%. L'État est donc prêt à accompagner la reprise, mais pas à porter seul l'essentiel du risque. Aujourd'hui, le tribunal devra déterminer si l'offre est suffisamment solide pour éviter la liquidation.
Et puis hier soir, la colère de Bernard Arnault après une enquête du journal Le Monde. Le patron d'LVMH a pris la plume pour notamment démentir toute fissure dans sa famille. En réaction là au dernier article de la série de 6 qui évoquait des rivalités entre ses enfants, le milliardaire qui n'a pas nommé de successeur à ce jour rappelle que ses 5 enfants dirigent tous des maisons au sein du groupe et il assure avec ironie qu'il s'appelle le dimanche.
Merci Léo. 7h07, les marchés. Et une nette baisse pour le pétrole ce matin. Étienne Braque, le pétrole qui repasse sous les 90 dollars.
87 dollars pour le baril de Brent. Quelle volatilité. Souvenez-vous, oui. En fin de semaine dernière, on était au-delà des 100 dollars pour le Brent. C'était une première depuis le mois de mai. Et donc là, ce matin, on se retrouve plus de 10 dollars en dessous, à 88 dollars précisément pour le baril de Brent. C'est bien sûr une baisse à mettre en relief face à la forte remontée ces dernières semaines. Le pétrole a gagné 6% la semaine dernière, quasiment 20% en ligne droite sur les deux dernières semaine. Le marché espère que la diplomatie va faire son travail dans les prochaines heures avec notamment Donald Trump qui a décidé de suspendre les attaques américaines pour donner un petit peu de temps à cette diplomatie. Vous avez ce matin, on en reparlera dans le journal, de 7h30, une introduction en bourse historique du côté de la bourse de Shanghai. C'est CXMT. C'est un spécialiste des mémoires RAM. C'est le quatrième acteur des mémoires RAM et avec une hausse de quasiment 500% cette nuit. Ce groupe est passé brièvement devant la banque ICBC, qui était jusqu'alors la première capitalisation de Chine. Ça montre quand même l'importance de cette introduction en bourse. Et on va encore beaucoup parler de tech cette semaine, puisque vous avez les résultats de Microsoft et de Meta qui vont être publiés mercredi. Idem pour Samsung. Et puis jeudi, ça sera au tour de Amazon ou encore d'Apple.
Beaucoup de résultats, évidemment, cette semaine. Dans le cas que ce soir, on va surveiller LVMH.
Oui, LVMH et Michelin qui vont donner le coup d'envoi cette semaine. Au total, vous avez 30 sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs résultats cette semaine. Donc, c'est de loin la plus grosse semaine en termes de saison de résultats à la Bourse de Paris pour l'été. Environ un tiers du S&P 500 vont donc dévoiler leurs résultats avec les GAFAM. Et vous avez vraiment des marchés qui sont dans l'attente de tout cela. Quand vous regardez la semaine dernière, on avait Wall Street qui a fait du surplace, qui continue de latéraliser. Moins 0,4% sur la semaine pour le Dow Jones, moins 0,6% pour le S&P 500, d'autant plus qu'en plus de ces résultats, vous aurez notamment la Fed qui est attendue au tournant mercredi soir. Et vous avez un marché qui commence à intégrer petit à petit, pourquoi pas, une hausse de taux dès cette semaine. Pour l'instant, elle est intégrée à plus de 30%, ce qui est quand même un revirement majeur, puisqu'il y a une dizaine de jours, elle n'était quasiment pas intégrée.
Merci beaucoup, Étienne Brack. Le plus tout de suite.
Good morning business. Le plus.
L'histoire d'une résurrection ce matin en janvier 2021. Les pailles, gobelets, couverts, jetables sont interdits en France. Résultat, de nouvelles pailles qui se tiennent mal et poussent même la Maison Blanche à revenir au plastique. Et pour le premier fabricant européen, une PME française plongée dans l'inconnu. Après 5 ans à survivre, Soyez Frères s'apprête à lancer une solution révolutionnaire. Reportage d'Alexandra Paget.
À Donzy, dans la Nièvre, des milliards de pailles en plastique ont été fabriquées depuis 1956. Mais il y a 5 ans, il faut tout arrêter. La loi programme la fin de tous les emballages plastiques à usage unique d'ici à 2040. Frédéric Soyer, la 6e génération à la tête de l'entreprise qui porte son nom, voit son chiffre d'affaires passer de 12 à 6 millions d'euros. Première solution, acheter de nouvelles machines pour basculer du plastique au papier. Laurence, agent de fabrication depuis 30 ans, a vécu cette transition.
Quand on était aux pailles plastiques, toutes nos machines tournaient 24 heures sur 24 et tous les ateliers tournaient à fond. Quoi. Vraiment, on produisait énormément et on desservait toute l'Europe. Donc du coup, on est passé au papier, donc on a eu très peur.
Mais la solution papier n'est pas satisfaisante, ne répond pas aux attentes des consommateurs. Et Frédéric Soyer cherche une solution alternative qui va quasiment tomber du ciel, en tout cas de Finlande. Un industriel le contacte et lui propose d'industrialiser une matière première révolutionnaire sur ses anciennes machines, au grand soulagement des 75 salariés.
Toutes les machines qu'il y avait, ça nous a fait mal de toutes les arrêter. On va repasser sur nos anciennes machines, donc on a tout le savoir-faire, on les connaît très bien, on n'aura plus qu'à les faire redémarrer.
La solution de Sulapac, l'industriel finlandais, des polymères issus de matières d'origine 100% naturelles, sans modification chimique, contrairement à la bagasse, résidu de la canne à sucre massivement distribuée en Europe, ou aux pailles importées de Chine. La nouvelle paille est entrée en pré-production dans les ateliers sous l'œil de Frédéric Soyer.
Par exemple, on a typiquement des palettes de paille pour notre client historique McDonald's. Aujourd'hui, ces pailles sont en papier. Demain, on aura la possibilité de leur proposer une matière alternative à ce papier et qui sera pour autant conforme à la réglementation sanitaire et réglementaire dans le domaine du packaging.
Soyez Frères s'apprête à inonder à nouveau le marché de ces pailles, ni en plastique, ni en papier, ni chimiquement modifiées, donc qui ne nécessitent pas d'être recyclées et de bonne tenue, et à retrouver la production d'antan.
Le marché des pailles, effectivement, le multiple, c'est le milliard. Et on va lancer les premières pailles qui vont être destinées aux bars, hôtels et restaurants dans le courant de l'été, avant de pouvoir proposer ces solutions à l'industrie des jus de fruits et du lait.
Candia, Capri-Sun notamment sont sur les rangs. Soyez Frères espère bien éponger ses dettes contractées pendant ces 5 ans et retrouver une trajectoire de croissance.
Good morning business, face à le Chypre.
Le débat ce matin est face à le Chypre. Il y a Étienne Brack. Nous allons parler de l'automobile allemande, plus particulièrement avec ce vaste plan d'économie chez Volkswagen qui est très caractéristique de la situation en ce moment. 100 000 postes menacés, c'est ça Étienne?
Oui.
Est-ce que c'est le début de la fin de l'automobile allemande?
La question se pose très clairement. Souvenez-vous, vendredi matin, Volkswagen a revu à la baisse ses objectifs pour cette année. Il prévoit 50 000 suppressions de postes. Un autre plan de 50 000 suppressions de postes serait sur les rails. Aujourd'hui, lundi, vous avez Porsche qui devrait annoncer 5000 suppressions de postes d'après la presse allemande, avec une situation qui est très compliquée pour l'ensemble de ces constructeurs. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, ils ont très largement profité de l'essor de la classe moyenne en Chine, hein, le marché chinois qui était de loin très rentable. Et puis là, dernièrement, bah, vous avez des constructeurs chinois qui sont montés en gamme et donc des Chinois qui n'achètent plus des marques allemandes et européennes, mais des marques chinoises. Alors, c'est pas propre au secteur automobile, hein. Vous avez LVMH qui va publier ce soir. Ça sera intéressant de voir avec Kering et Hermès également cette semaine comment ça se passe en Chine, sachant que le consommateur chinois se tourne de plus en plus sur des produits locaux. Mais c'est vraiment un tournant. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'était une nouvelle marquante il y a 6 mois de ça. La voiture la plus vendue en Chine sur le segment au-delà des 100 000 $ n'était pas une Mercedes, n'était pas une BMW, n'était pas une Audi. C'était la voiture Maestro S800 signée par Huawei. Et ça, franchement, c'était vraiment un tournant majeur. C'est-à-dire que même sur l'ultra-luxe, aujourd'hui, la Chine domine.
Non, on est peut-être sur un plus bas avant un rebond. Valeo disait la semaine dernière sur ce plateau que l'automobile européenne était en train de se réinventer. Alors, vous faites votre cravate, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, Emmanuel Le Chypre.
Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas vendre trop vite la peau de l'industrie automobile allemande. D'ailleurs, on est dans une industrie qui est quand même assez cyclique, hein, et ce qui est paradoxal souvent, c'est qu'on a affaire à des très grands groupes qui tombent très bas, mais qui se redressent assez vite, hein. Il faut rappeler que Volkswagen, à la fin des années 90, a connu une crise qui était à peu près similaire à celle qu'on connaît aujourd'hui, avant que ça redevienne un des plus grands constructeurs du monde. Ensuite, oui, effectivement, il y a cette inversion de tendance par rapport à la Chine qui était un gros client et qui devient maintenant un gros pourvoyeur de voitures. Mais la Chine, ça n'est pas tout le marché mondial. Les constructeurs chinois, comme aucun constructeur, ils gagneront pas partout. Et effectivement, on a des capacités pour leur résister. Le haut de gamme, ça reste quand même une force allemande dans le monde entier. Les constructeurs allemands, ils ont toujours des atouts extrêmement importants sur leur ingénierie, sur la sécurité, sur la qualité de fabrication, etc. Donc, ils ont quand même des savoir-faire que peu de gens ont. Et puis, oui, l'industrie allemande, elle est en train de changer de modèle. Alors, c'est à l'allemande, hein, c'est-à-dire que les inflexions de trajectoire en Allemagne, c'est tous les 20 ans. La dernière fois, c'était au début des années 2000, quand il y a eu toutes les lois sur le marché du travail pour relancer le pays après l'unification qui avait pas mal dégradé la compétitivité. Et ben là, l'industrie allemande aujourd'hui, elle est en train de prendre ce virage, un virage qui fait qu'on se rend compte que dans l'industrie automobile, on fabrique de moins en moins des voitures, mais de plus en plus des produits logiciels finalement. Oui. Et ça, c'est pareil, ça c'est un virage que l'industrie allemande et que l'industrie européenne sont en train de prendre. Alors oui, ça va encore sans doute prendre un peu de temps, mais on peut quand même espérer des jours meilleurs pour l'industrie automobile allemande et européenne.
Grâce à l'IA, grâce aux processeurs, j'allais dire. Oui, voilà, tout ça, les semi-conducteurs, effectivement, Étienne.
Mais le problème, c'est que là-dessus, la Chine a une avance considérable. Quand vous voyez que certains modèles chinois arrivent à recharger de 20 à 80%, voire même un peu plus en l'espace de 10 minutes. Là-dessus, les constructeurs automobiles allemands ne savent pas encore faire. Sur la partie voiture autonome, c'est une réalité en Chine, ça l'est pas du tout en Europe.
Elle arrive, Valeo a dit qu'elle arrivait.
Oui, mais en tout cas, quand vous voyez qu'en Chine, vous avez des voitures qui conduisent toutes seules dans les rues, ce n'est pas encore le cas chez nous. Et puis, il faut pas oublier qu'on a un marché qui est de plus en plus polarisé entre le low cost d'un côté et l'ultra premium de l'autre. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Mercedes et certains constructeurs allemands, mais ça l'est beaucoup moins pour certains segments qui sont sur du milieu de gamme. Et aujourd'hui, c'est ce segment qui souffre.
L'avenir nous le dira, hein, si vous aviez raison, Étienne Brack. Merci à tous les deux, messieurs, pour ce débat.
Good morning business, parole de patron.
Parole de patron ce matin, c'est avec Arnaud Zumaglia, directeur général du parc des expositions de Rouen, qui est en direct avec moi à distance. Bonjour, on va parler de l'évolution des événements physiques, des foires, des expositions avec vous. Il y a notamment en ce moment à Paris la 3e édition de la Coupe du Monde de jeux vidéo. C'est la première fois que c'est à Paris, il y a énormément de joueurs, 2000 joueurs. Ça se passe jusqu'à fin août, donc c'est un événement sur la longueur. Qu'est-ce que ça dit de l'événementiel aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que l'événementiel se réinvente 6 ans après le Covid?
Oui, c'est tout à fait ça. Paradoxalement, c'est un événement digital qui nous fait parler des rencontres de l'événementiel, parce que l'événementiel en France, c'est principalement ça. Ce sont des rencontres physiques. Il y a un besoin de se rencontrer encore plus quand il y a des nouvelles technologies. L'événement de la Coupe du Monde de e-sport, c'est un événement, vous l'avez dit, 2000 joueurs, mais c'est surtout des centaines de millions de téléspectateurs et de spectateurs, puisqu'au-delà des spectateurs physiques qui vont venir sur l'événement à Porte de Versailles et dans les autres endroits de Paris, il y a surtout des centaines de millions qui suivent en live sur les différentes plateformes. Donc c'est l'événementiel qui se réinvente post-Covid, le Covid qui a eu entre guillemets le mérite, si on peut le dire comme ça, de casser les barrières du télétravail, du distanciel, et le jeu vidéo qui était déjà habitué à ce distanciel, puisque né d'une culture du digital et de rencontres virtuelles, effectivement un peu plus pionnier que le reste des événements sur cette technologie là.
Ça veut dire que le présentiel et le digital se complètent aujourd'hui. Vous-même, Armand, vous allez sur ce créneau du jeu à l'hiver prochain, en février prochain, avec l'événement Geek Life Rouen, ce sera quoi ça ?
Alors en fait, Rouen a été un peu pionnier en 2017 sur des événements de gaming qui avaient lieu au Kind Arena, et on reprend effectivement un peu le flambeau, puisque il fallait aussi que le marché se professionnalise. Donc souvent, je dirais avant Covid, monté par des associations de joueurs, de gaming, etc. Aujourd'hui, c'est un événement qui est beaucoup plus professionnalisé. On le voit avec la Coupe du Monde, hein, qui donne quand même un prize money de 75 millions de dollars. Donc, c'est énorme, c'est colossal. Nous, on va aller effectivement sur une manifestation qui sera un peu moins dédiée aux purs gamers et aux professionnels. On va aller sur un événement qui va être plus grand public, autour de la culture du digital. Donc on utilise le e-sport comme un outil autour du digital, de la culture manga, de l'éducation aussi aux nouvelles technologies et pourquoi pas à l'intelligence artificielle dont vous parliez il y a quelques instants.
Alors on parle beaucoup de l'événementiel dans les grandes villes, effectivement souvent c'est centralisé à Paris, mais il y a aussi toute une économie développée localement, notamment à travers les expositions, mais les foires. Vous en avez organisé une au printemps. Qu'est-ce que ça draine là, ce type d'événement ?
Bah, c'est vraiment ce type d'échange dont je vous parlais. Les gens ont besoin de rencontres, au-delà de tout ce qu'ils pourront ou peuvent acheter sur Internet. Ils ont besoin d'avoir une relation commerciale et commerçante, d'avoir de la proximité. Le marché de l'événementiel, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros en France. C'est 37 000 emplois, 4 000 entreprises. Donc, ça génère beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires, de transactions, à la fois pendant l'événement, mais aussi a posteriori de l'événement. On dit qu'un exposant qui expose sur une foire va faire un chiffre d'affaires de 3 à 8 dans les 10 mois qui suivent sa présence sur le salon. Donc, c'est un moyen, c'est un moment de rencontrer une masse de gens qui viennent effectivement pour faire des achats, mais aussi avoir accès à, je dirais, des expositions un peu plus éducatives et créer, je dirais, un mix de vie, d'immersif, de sensations qui sont à la fois commerçantes, mais aussi à la fois des rencontres. Vraiment, c'est ce qui ressort aussi de cette dimension post-Covid, cette envie de se rencontrer au-delà de tout ce qu'on peut avoir accessible et en un clic sur le digital.
Ce qu'on avait remarqué, pour finir, Arnaud Zumaglia, à la fin du Covid, c'est que, par exemple, les entreprises se déplaçaient beaucoup moins, elles mettaient beaucoup moins de budget dans le fait d'aller, justement, exposer physiquement dans ces parcs exposition. Est-ce que ça, c'est revenu ? Est-ce que les entreprises sont revenues ?
Oui, les entreprises sont revenues. On est sur une moyenne de plus 12% sur l'année 2025 et le début 2026. On a un peu plus de mal, en toute transparence, à faire venir les visiteurs, mais il y a énormément d'événements conjoncturels qui viennent en front de cette venue des visiteurs. Mais le marché reprend progressivement et puis charge à l'industrie de l'événementiel, ce qu'elle est en train de faire aussi, de se réinventer pour avoir des expériences un peu plus immersives, de faire vivre des émotions et des sensations beaucoup plus fortes aux visiteurs. Et c'est en train de se mettre en place.
Merci beaucoup, Arnaud Zumaglia, d'avoir été ce matin dans la matinale de l'économie, directeur général du parc des expositions de Rouen en direct. Dans un instant, le journal de 7h30, on va revenir sur la situation au Moyen-Orient. Pas de nouvelles hostilités ce week-end, pas de bombardement depuis vendredi. Et cette conséquence immédiate sur le prix du pétrole qui est redescendu sous les 90 dollars. Peut-être aussi la perspective d'un accord finalement. On va en parler dans un instant avec Léo Dumas tout de suite.
Good Morning Business, le journal.
7h31, les titres, Léo.
Une troisième nuit sans frappe au Moyen-Orient pour laisser de la place à la diplomatie. Selon Washington, le Canada inaugure son nouveau pont avec les États-Unis, mais sans les Américains. Et puis, entrée fracassante ce matin à la bourse de Shanghai pour le champion chinois des puces mémoire. Il y a donc une nouvelle pause dans les hostilités au Moyen-Orient. Pas de bombardement américain sur l'Iran depuis vendredi soir et pas de réplique iranienne sur les pays du Golfe non plus. De quoi donc faire rechuter les cours du pétrole ce matin. Le baril de Brent perd plus de 6%, 92 dollars. Avec cette perspective d'un retour à la solution diplomatique évoquée ces dernières heures par l'ambassadeur américain à l'ONU Mike Waltz.
Cela laisse une marge de manœuvre à la diplomatie, cela lui accorde un peu de temps. Bien sûr, le président a tenté la voie diplomatique l'année dernière, il a tenté à nouveau cette année. C'est un président de paix, il donne une chance à la diplomatie. Nous verrons bien dans les jours à venir, mais ne vous y trompez pas. Des moyens militaires supplémentaires sont en train d'être déployés dans la région et il devrait croire le président lorsqu'il affirme qu'ils sont prêts à intervenir et que toutes les options sont sur la table.
Mike Waltz qui dément aussi tout manque de munitions des États-Unis, alors que selon le New York Times, la pause dans les bombardements s'explique par l'affaiblissement des stocks de systèmes d'interception et d'équipements défensifs qui protègent les pays du Golfe des représailles de l'Iran. Téhéran qui par ailleurs menace de riposter à une attaque de l'Ukraine contre l'un de ses navires marchands ce week-end en mer Caspienne. Volodymyr Zelensky avait confirmé plutôt la réussite de tirs longue portée visant notamment des cargaisons militaires impliquant l'Iran dans ce secteur. L'Iran qui affirme n'être jamais intervenu dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.
On parle aussi ce matin des questions commerciales et la tension est à son comble entre les États-Unis et le Canada, Léo.
Et alors le symbole, c'est le pont Gordie Howe, structure toute neuve qui relie Windsor à Détroit. Elle ouvre à la circulation aujourd'hui, mais son inauguration s'est déroulée en catimini sans les Américains à qui Ottawa a retiré l'invitation après les dernières menaces douanières de la Maison-Blanche, Justine Vassogne.
Il serait inapproprié de maintenir un événement festif entre les deux pays, assume le ministre des Infrastructures canadien. Le pont international Gordie Howe, destiné à devenir l'un des corridors commerciaux les plus importants d'Amérique du Nord, ouvre bien à la circulation aujourd'hui, mais son inauguration a été réduite au strict minimum. Seuls quelques représentants canadiens ont fait le déplacement vendredi dernier. Les nouvelles menaces de droits de douane de Donald Trump ont envenimé des relations déjà très tendues entre les deux voisins. Le 19 août, 20 milliards de dollars de produits canadiens comme le vin, les produits laitiers mais aussi les crosses de hockey seront taxés à hauteur de 50%. L'ouverture du pont, en construction depuis 8 ans, avait déjà été repoussée de plusieurs semaines suite à un désaccord entre les deux pays sur le partage des recettes. Mais attendre davantage n'était pas une option, tant ce pont est crucial pour les économies américaines et canadiennes. Plus de 100 milliards de dollars de marchandises pourraient y être transportés chaque année.
L'actualité des entreprises et cette séance historique ce matin à Shanghai.
Avec le début en fanfare de CXMT, un acteur des mémoires RAM qui ont vu leur prix s'envoler avec la demande liée à l'intelligence artificielle et à leur Étienne Braque. L'entreprise a levé quasiment 9 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse IPO de l'année en Chine.
C'est une entreprise qui est assez jeune, elle a été créée en 2016, donc elle a tout pile 10 ans. C'est le quatrième fabricant mondial de puces RAM avec une part de marché évaluée aux alentours des 8%. C'est un marché qui est en forte croissance en volume, mais également en valeur, dans le sens où il y a aujourd'hui une pénurie de mémoire RAM avec la demande liée à l'intelligence artificielle pour les data centers. Et donc, vous avez eu des hausses de prix spectaculaires sur ces puces RAM. On l'a vu notamment ces dernières semaines avec SK Hynix, Micron ou encore Samsung qui ont vu leurs marges progresser d'une façon spectaculaire, au point même que certains acteurs comme Apple se sont tournés vers CXMT pour savoir si c'était possible de se fournir chez eux afin de diversifier un petit peu la chaîne d'approvisionnement. Alors, il y avait très peu de titres ce matin à Shanghai, CXMT, comme souvent lors des IPO chinoises, ce qui fait que le titre s'est envolé d'une façon spectaculaire, et encore le mot est faible, puisque le titre a progressé de quasiment 500% dans les premières heures cette nuit, ce qui fait que la capitalisation boursière de CXMT s'est envolée, au point même que pendant quelques minutes, c'est passé devant la banque ICBC, qui était jusqu'alors la première entreprise chinoise sur le marché de la Chine continentale.
Merci Étienne Braque, à la Bourse de Paris, c'était le micro lui, a été sanctionné en fin de semaine dernière après la publication semestrielle et des perspectives insuffisantes au goût des marchés. Mais le groupe est toutefois revenu dans le vert sur la première partie d'année, 253 millions de dollars de bénéfices. Et il prévoit surtout une accélération de sa croissance en fin d'année, Paul Valère.
Plus de 25% de ventes pour STMicroelectronics sur un an. L'an passé, beaucoup de clients historiques comme les constructeurs automobiles avaient trop de stock et ont ralenti leurs commandes. Ils se remettent progressivement à acheter des puces essentielles pour faire fonctionner les véhicules. Mais le groupe veut aussi miser davantage sur de nouveaux relais de croissance, à commencer par les communications en orbite basse, marché en plein essor avec le développement des services d'accès à Internet par satellite. Cette activité représentait 175 millions de dollars de ses revenus il y a 5 ans. Le groupe vise aujourd'hui plus de 3 milliards en revenus cumulés entre cette année et 2028. STMicroelectronics profite aussi de l'essor de la demande des data centers en composants de puissance et de gestion énergétique, à tel point que l'entreprise a relevé ses objectifs dans ce domaine. D'une prévision précédente de vente à plus de 500 millions de dollars cette année, elle s'attend désormais à finir au-dessus du milliard et au-dessus des 2 milliards l'an prochain si la dynamique se poursuit.
Et dans 10 minutes, Sandra, votre invité, Jean-Marc Chéry.
C'est vrai, exactement. Dans le grand entretien, le PDG d'STMicroelectronics qui sera sur ce plateau, Léo.
Et après ça, ce sera une journée cruciale pour Maison du Monde puisque les actionnaires vont se prononcer ce matin en Assemblée Générale sur le plan de sauvetage proposé par deux fonds d'investissement britanniques. La dernière chance, selon la direction, pour éviter le redressement judiciaire, Valentine Adby.
C'est une étape clé pour l'avenir de Maison du Monde qui a toutes les chances de devenir la propriété de deux fonds d'investissement britanniques. Leur proposition, reprendre plus de 210 millions d'euros de dettes et injecter 33 millions d'euros de nouveaux financements. En contrepartie, ils prendraient le contrôle d'environ 95% du capital. Les actionnaires actuels seraient donc presque totalement dilués. Pour la direction, c'est la seule solution pour éviter le redressement judiciaire si l'opération n'est pas finalisée d'ici le 15 septembre. Cette situation est le résultat de plusieurs années difficiles. Après l'embellie de la période Covid, l'inflation et le ralentissement du marché immobilier ont pesé sur les ventes de meubles et de décorations. L'an dernier, le chiffre d'affaires a encore reculé de plus de 5% à 947 millions d'euros et le groupe a enregistré une perte nette record de 406 millions d'euros. Malgré un plan d'économie et la restructuration de son réseau de magasins, l'enseigne n'a pas réussi à redresser durablement sa situation. Le vote des actionnaires est donc déterminant pour son avenir.
7h38, les marchés. C'est une semaine très très chargée en résultats, Étienne Braque.
Que ce soit à Paris, mais aussi aux États-Unis. À Paris, dans le CAC 40, vous avez 30 sociétés du CAC qui ont publié leurs résultats cette semaine. Ça commence ce soir avec LVMH et Michelin. Et puis aux États-Unis, vous avez bien sûr les GAFAM. La semaine dernière, c'était Alphabet. Et là, vous avez Microsoft et Meta qui vont publier leurs résultats mercredi. Et puis jeudi, ça sera au tour d'Amazon et d'Apple. Ça sera intéressant de voir si ces résultats vont réussir à Wall Street de renouer avec les plus hauts historiques. Dans le sens où depuis plusieurs séance depuis plusieurs semaines même. Vous avez des indices américains qui latéralisent. Ils font pas grand chose. Quand vous regardez depuis 2-3 semaines, on reste un petit peu sur les mêmes niveaux, que ce soit sur le Dow Jones, mais également sur le S&P 500. Sachant que les derniers résultats d'entreprise ont été mal arbitrés. Souvenez-vous, la publication de Alphabet a été vendue. Idem pour Intel, qui a perdu 8% malgré la plus forte croissance de son chiffre d'affaires en l'espace de 17 ans. Vendredi, American Express a publié des résultats. Ils étaient en ligne avec les attentes. Le groupe a revu à la hausse ses prévisions, mais ça n'a pas suffi, le titre était en baisse de 4%, alors que vous avez quand même une hausse de 9% à change constant des dépenses des titulaires de cartes American Express. Ça montre encore et toujours cette économie en cas aux États-Unis, dans le sens où les revenus les plus aisés continuent de dépenser, donc sur des niveaux historiques avec cette carte de crédit. Dans l'ensemble, vous avez un marché qui est quand même très optimiste sur cette saison de résultats, dans le sens où sur le S&P 500, vous avez un consensus qui s'attend à une croissance des profits de 26%. Oui, plus 26%, c'est la croissance attendue des bénéfices par action au deuxième trimestre pour les entreprises américaines du S&P 500, tirées bien sûr par les GAFAM et par le segment de l'intelligence artificielle.
Merci Étienne Braque. Comme promis, effectivement, Jean-Marc Chéry, le PDG de STMicroelectronics, c'est avec moi dans un instant dans le grand entretien. On va parler des résultats, évidemment, des perspectives aussi. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien, c'est Jean-Marc Chéry, PDG de ST Microelectronics, qui est avec moi ce matin. Merci d'être en direct dans cette matinale de l'économie. On l'a dit à l'instant, le groupe est revenu dans le vert dans la première partie de l'année. Vous l'aviez dit en avril en venant sur ce plateau, hein, que ça allait mieux. Qu'est-ce qui vous a fait remonter sur ces mois-là?
En fait, on voit une accélération sur ce que je classifie le cycle du marché autour des infrastructures digitales. Donc, il y a deux infrastructures digitales sur lesquelles nous sommes positionnés. Voilà, bien sûr, AI et data center. Donc, j'ai prononcé le mot magique. Mais aussi les infrastructures de communication qui utilisent les orbites basses de satellites. Et c'est pas anodin, hein, puisque cette année, pour nous, ça sera plus de les deux cumulés, hein, plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'année prochaine, ce sera plus de 3. Et en fait, on va se diriger vers un poids de ces infrastructures à peu près de 20% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a initiée il y a 5 ans. Bon, malheureusement, on a passé deux cycles compliqués avec l'automobile, en 24 et en 25.
Ouais.
Mais voilà, la stratégie est en train de payer maintenant de diversification sur ces infrastructures.
Alors, on va parler de ça et de l'automobile, justement. Mais ça n'a pas tellement convaincu, ces résultats-là, les investisseurs. Il y a une grosse chute en bourse le jour de la publication des résultats. C'est une des grandes difficultés, finalement, des entreprises comme les vôtres. C'est-à-dire que vous êtes sur plein de secteurs différents qui ont des cycles de vie, eux aussi différents, en réalité.
Alors, bon, il faut quand même voir que depuis quelques semaines, il y a quand même un phénomène de correction. Surtout ce qui touche l'intelligence artificielle, parce que in fine il va quand même y avoir un sujet entre les centaines de milliards d'investissements et la création de valeur, soit pour les entreprises, soit pour les pays. Bon, donc c'est un sujet qui à un moment donné viendra à se réguler et la correction est déjà en partie en cours. Donc effectivement, la semaine dernière, c'est un phénomène que l'on a subi. Bon, là, si vous voulez, je suis en plein visite des investisseurs actifs, hein, les grands investisseurs. Bon, il n'y a pas de rejet de l'annonce de ST. Là, c'est une réaction épidermique de ce qu'on appelle les investisseurs passifs et qui réagissent très vite, des algorithmes, des robots. Et bon, tout le monde a subi, vous avez vu Google. Quand Google annonce qu'il brûle 6 milliards de dollars de cash, voilà, c'est un prétexte qui fait qu'il y a une rotation. On sent bien qu'il y a une correction. Et puis, généralement, fin juillet, août, c'est propice à ça. Et ça redémarre au début du mois de septembre avec les grandes conférences financières américaines.
Dans les puces, alors là, c'est les puces mémoire, c'est pas la même chose. Mais ce matin, oui, on parle de cette introduction en bourse CXMT. Le titre a progressé de près de 470% dans les premiers échanges. Ce sont des sommes monstrueuses. C'est pas exactement la même chose que ce que vous faites, vous, mais ces montants astronomiques, que ce soit en Asie ou aux États-Unis, je veux dire, tout ne va pas se réaliser. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Alors là, sur l'aspect de cette société chinoise, en fait, l'IA consomme énormément de mémoire qu'on appelle les mémoires à haute bande passante, et donc qui fait que un autre type de mémoire, bon, c'est des noms un peu barbares qu'on appelle DDR5, mais qui sont utilisés dans tous les systèmes où il y a des processeurs. Par exemple, dans l'automobile utilise des mémoires DDR5. Donc artificiellement, l'AI a créé une pénurie de ces fameuses mémoires DDR5. Or, dans les embargos technologiques qui a lieu dans le monde entier, donc les compétiteurs chinois savent faire ce type de mémoire DDR5, mais ne savent pas faire ce type de mémoire HBM. Donc là, il y a une vraie demande mondiale de faire de la mémoire DDR5, et bien sûr, cette société qui sait faire ça rentre en bourse, et donc là, il y a un appel d'air phénoménal et une valorisation. Bon, qu'on peut juger excessive, mais en tout cas, qui est-ce qu'il est aujourd'hui ? Parce qu'il y a une vraie demande.
Vous, votre technologie, vous en parliez tout à l'heure avec la data center et aussi les satellites à basse orbite, ce sur quoi vous êtes, c'est la photonique sur silicium. Vous pouvez rappeler ce que c'est comme type de puce ?
Alors, écoutez, dans les data centers AI, dans le commun des mortels, on pense tout de suite à traitement des données, donc ce qu'on appelle le computing, hein, donc en anglais, stockage des données et les mémoires. Mais il y a une troisième dimension qu'on a tendance à oublier, c'est le transfert de toutes ces données.
La
transmission des données. Et aujourd'hui, on arrive à des flux de données tellement importants que c'est devenu le goulot d'étranglement. Et donc, pour faire simple, avant, les données étaient transmises de voie classique, hein, par des câbles en cuivre et donc l'électricité. Bon, bah, maintenant, pour arriver de façon simple à des taux de transmission, des largeurs de transmission et à des consommations de puissance les plus faibles possibles, il faut passer à des technologies optiques qui utilisent la photonique sur silicium, qui a simplement la capacité de passer à l'entrée d'une transmission classique par électron à une transmission par photon et vice-versa. Bon, je ne vous la fais pas plus compliquée. Et ça s'est accéléré donc, au début de l'année en cours et l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'on est passé à des taux de transmission de 400 gigabits par seconde à 800 et 1,1 bit par seconde. Et là, donc, il y a eu une accélération phénoménale donc, de toute la transmission par câble optique entre les différents racks de serveurs. Mais il y a mieux qui va arriver. C'est-à-dire que bientôt, à l'intérieur du serveur, où c'est encore des câbles en cuivre, on va être obligé de passer aussi à des câbles optiques. Et ST est parfaitement positionné sur ce type de marché, d'où ma communication au marché financier en disant cette année, on va faire plus de 1 milliard. L'année prochaine, quand je dis bien au-delà d'un milliard, on pourrait se douter que ce n'est pas très loin de 3 et ça va continuer derrière.
Est-ce que vous avez la capacité de produire ? Vous allez notamment augmenter la capacité de votre usine de Crolles, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas trop de demandes justement sur cette technologie-là ?
Écoutez, l'usine de Crolles, elle a cette capacité qu'en fait, on peut vite augmenter ses capacités de production parce qu'on a mis en place un concept modulaire, c'est-à-dire qu'on fait des modules d'à peu près 3000 m² de salle blanche en un an, et donc en un an et demi, on s'est monté une capacité très très vite. Donc c'est ce qu'on a déjà décidé maintenant il y a quelques mois. Récemment, on a décidé de rajouter encore un module supplémentaire qui sera supporté, je dirais, c'est monté en cadence. Bon, maintenant, on est en train plus de se préoccuper sur ces engins optiques qui vont être clés dans les data centers, sur des histoires plutôt de souveraineté et de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement en amont.
J'aimerais vous poser une toute dernière question rapidement sur ce que vous pensez de la filière automobile. On entend des suppressions de postes dans tous les sens. On vient de parler des 100 000 postes supprimés chez Volkswagen. Vous, c'est une partie de vos clients. Vous voyez comment l'avenir de cette filière-là ? Valeo, à l'inverse, disait la semaine dernière, mais non, elle est en train de se réinventer, l'automobile européenne. La voiture autonome arrive en Europe. Qu'est-ce que vous dites ?
Si vous voulez, le statut actuel, c'est que quand vous prenez la chaîne de la valeur, entre le fabricant automobile, le tier one, nous-mêmes, personne gagne de l'argent aujourd'hui dans l'automobile.
Ouais.
Bon, ceci dit, la mobilité intelligente, la révolution de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle physique va toucher l'automobile. Donc effectivement, on va changer les concepts d'architecture des véhicules, on passera à des mix basés sur batterie, hybride, peut-être avec des carburants révolutionnaires. Donc, il y a toute une phase, effectivement, de renouvellement de l'industrie qui est en train de se faire. Bon, aujourd'hui, ceux qui peinent, c'est ceux qui sont full automobile. Mais si vous prenez une société comme la nôtre, effectivement, c'est difficile sur l'automobile depuis 2 ou 3 ans. Par contre, l'avantage de ST, c'est qu'on est positionné sur d'autres marchés industriels, l'AI, on est positionné sur les communications par satellite, qui fait que en fait, on peut tenir le coup pour supporter.
Ouais.
L'autre point qui est important, c'est qu'on voit une convergence des composants dont on aura besoin pour l'automobile, pour la robotique. Hein, ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle physique, où vous allez avoir les besoins de processeurs, de mémoire, de composants analogiques, de capteurs, qui vont être très très similaires. Et l'architecture d'un véhicule électrique sera très similaire à l'architecture d'un robot. Et donc, il va y avoir une convergence industrielle sur ce type d'applications qui seront pour moi les relais de croissance au-delà de l'année 2030.
Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, PDG de ST Microelectronics, merci d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. L'international, tout de suite, la chronique inter.
Good morning business, la matinale de l'économie.
Et on se pose ce matin cette question, après l'Ukraine, jusqu'où Vladimir Poutine peut-il être prêt à tester les nerfs de l'Europe et de l'OTAN ? De Narva en Estonie au corridor stratégique Zuvalski, plusieurs points chauds du flanc oriental sont désormais sous très haute surveillance. Explication, Annalisa Capellini, Mathieu Jolivet.
Mathieu, on revient aujourd'hui sur un point géographique chaud où Vladimir Poutine est déjà en train de tester les nerfs de l'Europe et de l'OTAN.
Oui, il s'agit de Narva, c'est une petite ville estonienne qui est à la frontière russe, qui a une majorité russophone, hein, héritée de l'Empire soviétique, et qui a été cette année la cible d'une campagne russe de déstabilisation. Des comptes russes sur Telegram en mars dernier ont fait émerger l'idée d'une nouvelle république de Narva, avec son propre drapeau, ses armes, son blason, bref, un objectif indépendantiste pour cette ville estonienne. Aujourd'hui, l'Estonie a renforcé sa sécurité. Le pont de l'amitié, hein, qui relie l'Estonie à la Russie et qu'on pouvait franchir à pied, eh bien, il est désormais encadré par des barbelés, des barrières anti-chars. Narva, elle fait partie en fait de ces villes qui ont une attache très forte avec la Russie et Moscou en joue. Historiquement, il y a une vague migratoire russe qui est venue dans la région après la Seconde Guerre mondiale, hein, attirée par la forte industrialisation. Et puis après l'indépendance de l'Estonie, c'était en 91, il y a une majorité de cette population russophone qui est restée en Estonie. Et aujourd'hui, à Narva, c'est pour ça qu'une grande majorité de la population parle russe. À Narva, on voit que les Estoniens durcissent le ton depuis l'année dernière. Là-bas, l'école passe à l'estonien et une partie des résidents russes, eh bien, a perdu le droit de vote aux élections municipales.
Ce qui inquiète les Européens dans ce narratif russe autour de Narva, c'est que la Russie a déjà utilisé ce même discours de ces régions à majorité russophone. En fait, c'est ce même discours qui avait précédé l'invasion russe en Crimée et dans le Donbass. Donc c'est pour ça aussi que cette ville estonienne de Narva est si importante pour l'OTAN. L'OTAN qui d'ailleurs a renforcé sa présence militaire sur son flanc oriental depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Et l'OTAN qui a installé en Estonie un bataillon dirigé par le Royaume-Uni depuis 2017. Sa présence a encore été augmentée depuis la guerre en Ukraine. De son côté, l'Estonie a acté la création en 2027 d'une nouvelle base militaire avec plus de 200 soldats et des alliés. Donc oui, on peut dire aujourd'hui que l'Alliance Atlantique surveille vraiment Narva comme le lait sur le feu. Ça fait vraiment partie aujourd'hui des points chauds à sécuriser autour de la Baltique.
Et surtout qu'il y a des signaux assez inquiétants qui se multiplient, analyse un Vladimir Poutine vient par exemple de signer au printemps dernier une loi qui l'autorise à déployer son armée dans des pays étrangers pour protéger ses citoyens russes qui seraient menacés, qui seraient résidents. Les législateurs de la Douma disent vouloir lutter contre une russophobie galopante à l'étranger. Forcément, en ligne de mire du Kremlin, tu as les pays baltes, où la population russophone, on en a parlé, est très forte. Et de leur côté, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie accusent Moscou d'entretenir délibérément ce discours de persécution pour mieux justifier de possibles futures annexions.
Il y a un autre point chaud à surveiller, c'est le corridor de Suwalki. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est vraiment à surveiller dans les prochaines années, parce que c'est une bande de territoire d'environ 65 kilomètres qui relie Kaliningrad à la Biélorussie. Et en fait, si la Russie arrivait à s'emparer de ce corridor, eh bien les États baltes, donc la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, se retrouveraient complètement coupés du reste de l'Europe. Pourquoi s'inquiètent autant les Européens ? Parce que en 2025, la Russie avait mené un exercice militaire XXL, un exercice nommé Zapad, conjointement avec la Biélorussie. Eh bien, cet exercice avait été interprété par les Polonais comme une simulation de prise de contrôle du corridor de Suwalki par les Russes.
Restez avec nous dans la matinale de l'économie. On revient dans un instant avec le journal de 8h et les conséquences des incendies en Gironde. Les entreprises ont commencé à s'adapter et les autorités ont annoncé plusieurs dispositifs d'aide. On va y revenir dans le détail dans un instant. À tout de suite.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoin.
Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Le week-end a été dévastateur en termes de feux de forêt, 260 000 évacués en Gironde, 42 000 hectares partis en fumée et tout le tissu économique de la région qui en plus est bouleversé. Les autorités ont déjà annoncé plusieurs dispositifs d'aide pour les entreprises locales. On va voir ça dans un instant avec François-Xavier Roux. Et puis le champion chinois des puces mémoire, CXMT a vu son titre flamber de près de 500% dans les premiers échanges lors de son IPO à Shanghai ce matin. CXMT qui a levé 8,6 milliards d'euros. La bataille de l'IA et des puces continue. On va en parler avec Étienne Brack tout à l'heure. Les autres titres, Léo.
Les assurances habitation bientôt en première ligne face au feu en Gironde. Les décideurs sont de plus en plus pessimistes selon le baromètre Via Voice pour BFM Business. Et puis, journée décisive au tribunal pour Fibre Excellence.
Dans la prochaine heure, il aide les exploitations viticoles et les brasseries à capter et recycler le CO2. Mais pas seulement, vous allez voir que Winery Platform a aujourd'hui une vingtaine de clients et vient de lever 1 million pour se développer. Mathieu Planté sera dans la French Tech à 8h10. Et puis cette question, si l'e-sport était l'avenir de l'événementiel, alors que la 3e édition de la Coupe du Monde des jeux vidéo se déroule à Paris jusqu'à la fin du mois d'août, le secteur se réinvente. On en parlera dans Parole de Patron avec Arnaud Zumaglia à 8h20. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Et cette 5e nuit de guerre contre les flammes en Gironde, Léo.
42 000 hectares ont déjà brûlé, 260 000 personnes ont été évacuées. Et les réunions de crise vont se multiplier aujourd'hui avec le gouvernement sur le plan national. D'un côté, cet après-midi, avec les fédérations concernées, tourisme, énergie et télécom notamment. Et puis avant ça, réunion dès ce matin à 9h à Bercy avec les professionnels du Sud-Ouest pour tenter d'assurer la continuité de l'activité. Les dernières informations avec François-Xavier Roux.
Dans les communes touchées par l'incendie en Gironde, pas de retour au travail en ce début de semaine, selon les mots de la préfète du département, Sophie Broca. La Chambre de commerce et de l'industrie dénombrait ce dimanche plus de 15 000 entreprises concernées par les zones brûlées et les zones évacuées. Pour elle, l'État a mis en place toute une série de mesures d'accompagnement, à commencer par une cellule d'urgence accessible par téléphone au 3006. Mais les entreprises peuvent aussi recourir à l'activité partielle, le motif, toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Elles peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement fiscal et financier ou encore des mesures exceptionnelles de l'URSSAF en faveur des employeurs et des travailleurs indépendants. Autre point de vigilance, un certain nombre de sites sensibles de l'industrie de défense, de l'aéronautique et du spatial installés sur le territoire. Depuis le début du week-end, industriels et autorités devancent une arrivée éventuelle des flammes avec la création de pare-feux autour des installations de Safran, Thales, Dassault, Roxel France ou encore Ariane Group. Les autorités se veulent rassurantes. Le ministère des Armées indique que des experts et des moyens ont été déployés pour la sécurité de ces sites. Et les industriels ont également évacué les stocks de matières les plus dangereuses et inflammables.
Et si les dégâts sont impossibles à chiffrer, pour l'instant, le bilan s'annonce colossal pour les particuliers. 240 habitations brûlées. Et les personnes concernées doivent maintenant se tourner au plus vite vers leurs assureurs. Caroline Morisseau.
En cas d'incendie, pas de mobilisation de fonds publics comme en cas de catastrophe naturelle. Cela relève de l'assurance habitation de chaque particulier. Ils ont 5 jours maximum pour faire leur déclaration avec dans l'idéal des factures et photos à l'appui. Les conditions d'indemnisation dépendent ensuite de chaque contrat, garantie des biens, sur leur valeur neuve ou vétusté déduite, franchise et surtout plafond. Selon les experts, c'est souvent là que le bas blesse. Beaucoup d'assurés ont tendance à sous-évaluer leurs biens pour payer moins cher leur assurance. La plupart des contrats prévoient également des aides pour le relogement si la maison est inhabitable ou détruite, mais là encore les durées dépendent du contrat. En France, il est rare d'avoir des dégâts matériels aussi importants liés au feu. Les incendies ne représentent que 4% des sinistres annuels. En revanche, c'est le sinistre le plus coûteux pour les assureurs, 15 000 euros en moyenne, beaucoup plus évidemment lorsque la maison est détruite, d'autant que ce coût a nettement augmenté depuis 2021 avec la flambée des matières premières et donc des coûts de construction.
Et les dirigeants d'entreprises ne croient plus beaucoup un retour à la normale de l'économie française, Léo.
Oui, constat ce matin du baromètre des décideurs Via Voice pour HEC, L'Express et BFM Business. Trois quarts d'entre eux estiment même que le niveau de vie des Français va se dégrader pendant l'année qui vient. Le pessimisme collectif gagne du terrain et il pousse les entreprises à revoir leurs priorités, Éline Le Faou.
On est entré dans une ère d'installation des crises, c'est ce que constate Adrien Broche, directeur de l'étude. Avec la guerre au Moyen-Orient, les tensions inflationnistes et l'enchaînement des canicules, il n'est plus question de parler d'événements ponctuels, mais bien d'un environnement durable. La priorité des entreprises n'est donc plus de savoir comment y faire face, mais plutôt comment s'y préparer.
À la sortie du Covid, donc fin 2020-2021, on était entré dans une ère vraiment de la résilience. Ça, c'est toujours vrai, mais il se trouve qu'on a progressivement muté, glissé vers l'ère des ajustements, des adaptations. Parce qu'on voit que ces crises, elles se sont installées. Parce qu'on voit que ces nouveaux rapports au travail, à la réussite, à l'investissement, ils ont muté et qu'ils sont toujours présents.
Ces dernières années, plusieurs changements ont été observés en interne, comme la question du télétravail, le recrutement ou le rapport à la hiérarchie. Mais un autre sujet est devenu central, la question de l'énergie.
En réalité, elle s'est imposée dans le débat public quasiment depuis 2020. Et et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où d'abord ça a pris la forme d'une question de donc énergétique, ensuite de pouvoir d'achat, et les deux se sont imbriqués directement. Et on voit quand même que très largement la question énergétique est une source de préoccupation, comme la question du travail, dans à peu près tous les secteurs d'activité.
Un enjeu qui s'invite déjà dans la présidentielle de l'année prochaine. 88% des décideurs souhaitent que la question des prix de l'énergie occupe une place importante dans le débat, même si la moitié d'entre eux estiment qu'aucun présidentiable ne semble comprendre vraiment ces enjeux.
Et puis c'est une journée décisive pour Fibre Excellence, Léo.
Le tribunal de commerce de Toulouse examine l'offre de Mathieu Pigas, déposée en dernière minute début juillet pour éviter la liquidation judiciaire aux fabricants de pâte à papier. Mais alors, pour sauver les 670 salariés, le financier demande une aide de l'État trop importante au goût du gouvernement, Valentine Adby.
Au cœur du dossier, une question: qui doit prendre le risque financier? Le projet de Mathieu Pigas prévoit plus de 100 millions d'euros d'investissement pour redémarrer les usines, les moderniser et développer de nouvelles productions, notamment de la pâte fluff destinée aux couches et aux protections hygiéniques. Mais sa holding Combat n'apporterait directement que 5 millions d'euros au capital, complété par 3 millions venant d'autres investisseurs privés. Le banquier d'affaires demande encore environ 110 millions d'euros de soutien public supplémentaire. De son côté, l'État rappelle avoir déjà consacré près de 90 millions d'euros à Fibre Excellence depuis 2021. Bercy est prêt à mobiliser 100 millions supplémentaires à travers des prêts, des garanties, des effacements de dettes ou encore une hausse du tarif de rachat de l'électricité produit par l'usine allant jusqu'à 20%. L'État est donc prêt à accompagner la reprise, mais pas à porter seul l'essentiel du risque. Aujourd'hui, le tribunal devra déterminer si l'offre est suffisamment solide pour éviter la liquidation.
Et puis la colère de Bernard Arnault hier soir après une enquête dans le journal Le Monde. Le patron d'LVMH a pris la plume pour notamment démentir toute fissure dans sa famille en réaction au dernier article de la série qu'il a évoqué des rivalités entre ses enfants. Le milliardaire, qui n'a pas nommé de successeur à ce jour, rappelle que ses 5 enfants dirigent tous des maisons au sein de son groupe et il assure avec ironie qu'il s'appelle le dimanche.
Merci beaucoup Léo Dumas, 8h07, les marchés. La tendance s'étire à moins d'une heure de l'ouverture.
Du vert, plus 0,8% pré-ouverture pour le CAC 40. L'Europe devrait profiter de la nette baisse des cours du pétrole ce matin, avec un baril de Brent qui flirte avec les 90$, sachant qu'en fin de semaine, la semaine dernière, nous étions proches des 100$. Donc on est quand même sur un repli significatif, avec donc Donald Trump qui a décidé de suspendre les attaques américaines envers l'Iran, afin de donner un petit peu de temps à la diplomatie. Et donc forcément, les cours du pétrole qui avaient fortement progressé ces dernières semaine, hein, quand même plus 40% depuis le début du mois de juillet, temporise un petit peu. C'est une semaine très importante en termes de résultats, avec notamment justement LVMH, hein, qui va publier ses résultats ce soir après la clôture du CAC 40. Vous aurez également Michelin. Au total, ce sont 30 sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs résultats cette semaine. Donc c'est de loin la semaine la plus importante de l'été. Du côté de Wall Street, après Alphabet la semaine dernière, vous aurez également mercredi et jeudi les autres GAFAM, hein, à savoir Microsoft, Apple, Amazon, qui vont publier leurs résultats. Et puis la Fed également, qui est attendue au tournant mercredi soir. Alors ces dernières semaines, le marché n'attendait pas grand-chose de la Fed. Mais là, au vu des pressions inflationnistes et de la détermination du nouveau président Kevin Warch, eh bien désormais, vous avez un marché qui intègre à 30% une hausse de taux dès ce mercredi, ce qui est bien sûr pas négligeable. Bref, on est sur une semaine sous haute tension sur les marchés actions.
Merci beaucoup, Étienne.
Good morning business. French Tech.
La French Tech, ce matin, c'est Mathieu Planté qui est avec moi, cofondateur de W en français d'ailleurs.
W
exactement. C'est société bordelaise née il y a 5 ans environ. Votre activité principale aujourd'hui, c'est de capter le CO2 issu de la fermentation du vin et de la bière. Expliquez-nous comment ça marche sur une exploitation. Vous vous mettez où? Vous captez quoi?
Bonjour, merci. Oui, effectivement, on capte le CO2. Il faut savoir qu'effectivement, les viticulteurs, lorsqu'ils récoltent un raisin, ils le mettent en cuve. Et aujourd'hui, dans ce process de fermentation, le sucre qui est contenu dans le raisin se transforme en alcool. Et du CO2 sort de la cuve, il va polluer le chai, malheureusement, et ensuite polluer l'atmosphère. Et en parallèle, les viticulteurs sont amenés à acheter du CO2 d'origine fossile qu'ils font rouler pour leur processus interne de fabrication du vin, de production du vin. Et donc, notre idée a été de concevoir un équipement qui leur permet de récupérer CO2 pour leur remettre à disposition leur propre CO2. Ça leur évite de polluer, ça leur évite d'acheter du CO2 en externe.
Oui, et on rappelle que ce CO2, c'est très toxique en l'occurrence.
Alors effectivement, oui, tout à fait. C'est un gaz inerte qui peut être dangereux, voire mortel, lorsqu'il est fortement concentré dans les chais.
Ouais. Vous avez une vingtaine de clients actuellement, dans les chais effectivement, dans les microbrasseries aussi. Où vous vous mettez pour capter ce CO2? Moi, j'ai du mal à imaginer ouais. où se trouvent ces capteurs et ces aspirateurs à CO2.
Tout à fait. Alors, c'est pas exactement des aspirateurs, mais effectivement, c'est intéressant. On se met en haut de cuve et on vient avec un tuyau tout simplement capter physiquement ce CO2. On prend le CO2 excédentaire, hein, celui que nous donne la cuve du brasseur ou du viticulteur. Et donc, c'est tout un réseau de tuyauterie et qui amène le CO2 vers nos équipements. Pardon, qui analyse en direct en fait la qualité du CO2. Pour pouvoir le réutiliser, il faut qu'il soit de qualité alimentaire. Et donc, notre métier, c'est de le traiter, justement, pour qu'il soit de qualité alimentaire. Et on va le comprimer pour le passer d'un état gazeux à un état liquide, afin qu'il occupe le moins de l'espace possible et qu'il puisse être réutilisé à la propriété pour fabriquer de la neige carbonique, pour fabriquer de la carboglace, parce que le gaz peut être aussi en état liquide et solide.
Les viticulteurs, ils ont l'obligation, non, de faire ça, de capter et de réutiliser, peut-être pas de réutiliser, mais en tout cas d'enlever ce CO2 de leurs exploitations des chais, non ?
Oui, effectivement. Donc il y a eu une loi qui est passée une dizaine d'années dans le Code du travail. Ça a été rappelé à l'Assemblée il y a deux ans. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une obligation légale de mettre en place une série de dispositifs pour capter CO2, en tout cas pour sécuriser au maximum le chais. Et donc aujourd'hui, ils sont effectivement en obligation de capter le CO2, mais moins d'1% aujourd'hui des exploitations ont fait le pas.
Ça vous laisse un très grand marché.
Exactement, et on a envie de le conquérir.
Vous venez de lever d'ailleurs 1 million d'euros, parce que là on parle déchets, mais vous faites ça aussi sur la bière.
Oui, effectivement, donc en fait on est né avec le monde du vin, et vous savez que la viticulture est un peu en crise, et donc on a essayé de voir un petit peu comment nos technologies, nos brevets pouvaient être exploités sur d'autres marchés, et le premier marché qui est arrivé, c'est le marché brassicole, puisque eux aussi ils fermentent, et ils ont une utilisation du CO2 encore plus importante, puisque en fait la bulle que vous retrouvez dans la bière, c'est du CO2. Et donc aujourd'hui, nos équipements sont utilisés dans quelques brasseries, brasserie Azimut, une première qui a été brasserie Sainte-Colombe à Rennes, et eux nous ont aidé à adapter un petit peu notre équipement pour passer du monde du vin au monde de la bière, mais c'est la même techno, et en fait ils récupèrent le CO2 qu'ils génèrent, et ils le réintroduisent dans la bière pour donner cette bulle, voilà.
Comment vous allez faire pour multiplier le nombre de clients? Vous venez de lever 1 million, là.
Oui, tout à fait. On a levé, donc c'est notre deuxième levée de fonds. On a levé grâce à Demea Invest, qui est notre premier investisseur, le fonds Vitirev, grâce à la région Nouvelle-Aquitaine, et puis une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Tudigo. L'objectif, c'est vraiment de se développer. On a maintenant fiabilisé nos technologies, on a nos premiers clients, et on va passer par les distributeurs. Donc, on a commencé à mettre en place un réseau distributeur en France, mm-hmm. et on a commencé aussi à l'international, au Chili et en Australie.
Combien ça coûte votre solution pour un exploitant? C'est quoi? C'est par fût? C'est par quoi que ça se compte?
Alors effectivement, ça se compte par un équipement. Donc les budgets vont auprès de 30 000 euros à 100 000 euros. Et en fait, ça dépend énormément de la quantité de CO2 qu'ils veulent récupérer. Il faut savoir qu'un hectolitre de vin génère 6 à 8 kilos de CO2. Un hectolitre de bière, à peu près 3 kilos. Donc ce sont des tonnes de CO2 qui sont émis. Et on design, on dimensionne nos solutions en fonction du besoin de réutilisation.
Vous travaillez aussi pour les microbrasseries, on l'a dit, mais votre solution pourrait s'adapter aux méthaniseurs.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que les méthaniseurs qui sont connectés, qui génèrent donc du biogaz, génèrent autant de CO2 que de biométhane. Et aujourd'hui, dans, on va dire, 80% des cas, ce CO2 est perdu. Et donc, l'idée était encore une fois de faire évoluer notre techno pour s'adapter à ce marché qui est en train de se développer. Ouais.
On se le disait juste avant le début de cette interview, à la base, votre plateforme, elle était faite pour finalement agréger toute la data qu'il y a dans les exploitations agricole et l'utiliser au mieux pour les exploitants. Ce que vous nous dites, c'est que vous avez un peu laissé de côté cette activité parce que pour le moment, les exploitants, soit ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas du tout digitalisés, soit ils sont trop prêts et trop digitalisés, mais en tout cas, on est dans un entre-deux qui fait que pour le moment, vous avez mis ça en pause.
Oui, effectivement. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le monde du logiciel, donc j'avais une grosse appétence pour essayer d'aider les viticulteurs à en fait mieux analyser leur historique de données par rapport aux données récentes pour pouvoir mieux anticiper les phénomènes qui évoluent de plus en plus vite. Et l'idée, c'était de leur donner un outil qui leur permet de fédérer toute cette data. Donc, des data qui viennent du chai, qui viennent de la vigne, via des capteurs. On voit de plus en plus de capteurs qui apparaissent dans les propriétés. Et chaque capteur vient avec une interface graphique. Et l'idée, c'était de leur éviter d'avoir 15 écrans à regarder pour prendre la bonne décision, mais de leur permettre de fédérer toutes ces données au même endroit pour justement les aider à prendre les bonnes décisions.
Là, il faudra finalement un renouvellement des générations dans les exploitations agricoles. Votre business aussi bien sur le CO2 que sur les data. il va exploser dans les 5 années qui viennent, on peut espérer.
Ah oui, oui, mais on espère dans les convaincus même effectivement qu'il explose. Effectivement, nous aujourd'hui on utilise cette plateforme parce qu'elle nous aide énormément à pouvoir voir nos équipements, remonter des données en temps réel, et puis on la met à disposition. Château Latour par exemple commence à l'utiliser pour justement optimiser leur consommation énergétique. On sait que la ressource en eau aussi est vitale pour eux, et donc en ayant une plateforme qui permet de regrouper toutes les données sur leur utilité, sur leur énergie, leur consommation, ça va permettre d'être encore plus vertueux et d'aller vers une responsabilité sociétale et environnementale de plus en plus efficiente.
Merci beaucoup Mathieu Planté d'être venu ce matin, cofondateur de W Plateforme dans la matinale de l'économie. Dans un instant, parole de patron, on va parler de l'avenir de l'événementiel avec l'e-sport notamment. À tout de suite.
Good morning business. Le journal.
8h31, les Troléos.
Une troisième nuit sans frappe au Moyen-Orient pour laisser de la place à la diplomatie, selon Washington. Les Canadiens inaugurent leur nouveau pont avec les États-Unis, mais sans les Américains. Et puis, entrée fracassante ce matin à la bourse de Shanghai pour le champion chinois des puces mémoire. Il y a donc une nouvelle pause dans les hostilités au Moyen-Orient. Pas de bombardement américain sur l'Iran depuis vendredi soir et pas de réplique iranienne sur les pays du Golfe non plus. De quoi donc faire rechuter les cours du pétrole. Ce matin, le baril de Brent perd plus de 6%, juste au-dessus des $90, avec cette perspective d'un retour à la solution diplomatique évoquée ces dernières heures par l'ambassadeur américain à l'ONU Mike Walls.
Cela laisse une marge de manœuvre à la diplomatie, cela lui accorde un peu de temps. Bien sûr, le président a tenté la voie diplomatique l'année dernière, il a tenté à nouveau cette année. C'est un président de paix, il donne une chance à la diplomatie. Nous verrons bien dans les jours à venir, mais ne vous y trompez pas. Des moyens militaires supplémentaires sont en train d'être déployés dans la région et il devrait croire le président lorsqu'il affirme qu'ils sont prêts à intervenir et que toutes les options sont sur la table.
Mike Walls qui en profite là aussi pour démentir tout manque de munitions des États-Unis. Alors que selon le New York Times, la pause dans les bombardements s'explique par l'affaiblissement des stocks de systèmes d'interception et d'équipements défensifs qui protègent les pays du Golfe des représailles de l'Iran. Téhéran qui, par ailleurs, menace de riposter à une attaque de l'Ukraine contre l'un de ses navires marchands ce week-end en mer Caspienne. Volodymyr Zelensky avait confirmé plus tôt la réussite de tirs longue portée visant notamment des cargaisons militaires impliquant l'Iran dans ce secteur, l'Iran qui affirme n'être jamais intervenu dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.
Sur les questions commerciales, Léo, la tension est à son comble entre les États-Unis et le Canada.
Et le symbole, c'est le pont Gordie Howe, structure toute neuve qui relie Windsor dans l'Ontario à Détroit. Elle ouvre à la circulation aujourd'hui. Mais son inauguration s'est déroulée en catimini vendredi sans les Américains, à qui Ottawa a tout simplement retiré l'invitation après les dernières menaces douanières de la Maison-Blanche, Justine Vassogne.
Il serait inapproprié de maintenir un événement festif entre les deux pays, assume le ministre des Infrastructures canadien. Le pont international Gordie Howe, destiné à devenir l'un des corridors commerciaux les plus importants d'Amérique du Nord, ouvre bien à la circulation aujourd'hui, mais son inauguration a été réduite au strict minimum. Seuls quelques représentants canadiens ont fait le déplacement vendredi dernier. Les nouvelles menaces de droits de douane de Donald Trump ont envenimé des relations déjà très tendues entre les deux voisins. Le 19 août, 20 milliards de dollars de produits canadiens comme le vin, les produits laitiers mais aussi les crosses de hockey seront taxés à hauteur de 50%. L'ouverture du pont, en construction depuis 8 ans, avait déjà été repoussée de plusieurs semaines suite à un désaccord entre les deux pays sur le partage des recettes. Mais attendre davantage n'était pas une option, tant ce pont est crucial pour les économies américaines et canadiennes. Plus de 100 milliards de dollars de marchandises pourraient y être transportés chaque année.
L'actualité des entreprises et cette séance historique ce matin à Shanghai.
Avec les débuts en fanfare de CXMT, acteur des mémoires RAM, dont les prix se sont envolés avec la demande liée à l'intelligence artificielle. Alors Étienne Brack, l'entreprise a levé presque 9 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse introduction en bourse de l'année en Chine.
Oui, en Chine continentale, c'est un acteur qui est assez jeune, CXMT, acteur qui a été créé en 2016, donc pile 10 ans. Et donc ils ont décidé de s'introduire en bourse, c'était dans les carnets depuis plusieurs jours maintenant, première séance. Ce matin, séance en forte hausse, hein, quasiment 500% dans les premières heures de cotation, ce qui fait que CXMT est passé devant la banque chinoise ICBC et c'est ainsi devenu l'entreprise en termes de capitalisation la plus importante de Chine continentale. Donc c'est quand même pas neutre. C'est le quatrième acteur, hein, tout de même aujourd'hui sur ce marché des mémoires RAM, un marché qui est en plein boom, que ce soit en termes de volume mais également en termes de prix, puisqu'on a une pénurie, hein, bien sûr, de mémoire RAM avec, vous l'avez vu ces dernières semaines, SK Hynix, Micron ou encore Samsung. Donc forcément, vous avez à court terme une entreprise qui a un boulevard, d'autant plus que vous avez certaines sociétés qui sont contraintes de se tourner vers elle, à commencer notamment par Apple, hein, qui s'est rapproché ces derniers jours de CXMT afin de diversifier sa chaîne d'approvisionnement et d'être sûr d'avoir ces fameuses mémoires RAM afin d'avoir en temps et en heure le nouvel iPhone qui va sortir au mois de septembre.
Merci messieurs. On a fini pour le journal, Léo ?
Une dernière info avec ce contrat ce matin annoncé par EDF avec Technip Energies qui va l'accompagner dans la réalisation du programme de construction des futurs EPR2, un accord qui n'est pas exclusif et dont le montant n'a pas été dévoilé.
8h36, les marchés. Et toujours dans le vert à 20 minutes de l'ouverture, Étienne.
Du vert, grâce notamment à une nette détente des cours du pétrole ce matin, que ce soit sur le Brent, mais également sur le WTI, deux références qui sont quasiment à 90$. C'est quand même un événement, hein, sachant que la semaine dernière, nous étions au-delà des 100$ sur le baril de Brent. C'était une première depuis le mois de mai. Nette détente des cours du pétrole. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le pétrole avait gagné 40%, hein, sur les trois premières semaines du mois de juillet. Les marchés qui regardent un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient, avec donc une petite accalmie, hein, les États-Unis qui ont arrêté leur tir envers l'Iran, et puis des marchés qui sont dans l'attente de ces fameux résultats d'entreprise. Un tiers du S&P 500 va dévoiler ses résultats cette semaine. Dans le CAC 40, vous avez 30 sociétés qui vont dévoiler leurs résultats. Ça commence ce soir avec Michelin et surtout LVMH. En attendant, il faudra regarder tout à l'heure à 9h AstraZeneca qui a publié ses résultats. Secteur pharmaceutique, hein, bien sûr, AstraZeneca avec des résultats qui étaient légèrement au-delà des attentes. C'est un titre qui est coté à Londres et qu'il faudra donc suivre tout à l'heure à 9h.
Merci Étienne, je vous laisse les mains, les commandes dans un instant, le Club de la Bourse avec Wilfried Galland, directeur stratégie de Montpensier Finance, et Florian Lelpeau en charge de la macroéconomie chez Lombard Odier IM. C'est Good Morning Market, moi je vous retrouve demain juste avant 7h sur BFM Business. Très bonne journée.